dans cette édition de Parlons Patrimoine. Cette semaine, nous nous rendons à la synagogue de Saverne, un magnifique bâtiment. Alors, je suis en compagnie de Yoav Rossano, responsable du consistoire israélite du Bas-Rhin du patrimoine, bien sûr, et du président de la communauté juive de Saverne, Alain Kahn. Alors, cette synagogue vient de fêter ses 120 ans, donc elle a été construite en 1898, 120 ans.
Elle a été construite, inaugurée en 1900 et elle a été détruite ensuite pendant la guerre, en 1943. Elle avait été transformée en local pour la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne. Et ensuite, elle a été restaurée en 1950. Et depuis, elle a été reconstruite, mais beaucoup moins grande qu'auparavant, parce que il y avait évidemment après la Shoah beaucoup moins de membres qui sont revenus.
Et aujourd'hui encore, la communauté juive de Saverne représente très peu de familles. Deux, vous me disiez.
À Saverne même, il y a encore quinzaine de personnes qui habitent à Saverne. On a en tout une cinquantaine de membres, mais c'est des anciens membres qui habitent plus ou moins loin et qui nous soutiennent autant qu'ils peuvent, et puis qui viennent lorsque nous organisons des activités ponctuelles. Et puis, on avait aussi le bâtiment qui est à côté, qui servait longtemps d'oratoire pendant l'hiver, qui avait été à un moment restauré en 2001 et qui avait été transformé en maison d'hébergement avec la possibilité d'organiser des activités aussi. Et on est en train de réfléchir sur une remise en état de ce bâtiment.
Plus d'offices du tout dans la synagogue ?
On peut faire des offices ponctuels, en fonction des demandes, à certaines occasions. Avec Yoav, on avait déjà organisé des concerts. Avec le groupe interreligieux à Saverne, on a organisé des conférences. Régulièrement, on organise des visites avec les différents établissements scolaires. Vous voyez, c'est des activités vraiment de communication.
Yoav, tu as les clés ? On y va ?
Valérie, Alain, bonjour. Un petit surprise. Alors, tu vas, hein, Valérie ? On a la synagogue, on va rentrer. Mais en fait, avant, la synagogue était tous les bâtiments, jusqu'au bout.
Quand elle a été reconstruite, avec la moitié de la surface qu'elle occupait auparavant. Et par derrière, ont été aménagés des appartements pour, à l'époque, c'était pour le ministre officiant et pour le bedeau.
Elle n'a pas l'air d'avoir trop souffert de l'extérieur. Vous avez déjà fait des travaux ?
Alors, elle est en très bon état. Il y avait un dégât il y a quelques années. Il y avait des fuites à l'intérieur et c'était réparé. Et il y a encore un peu de réparation actuellement à faire. Mais sinon, elle était restaurée à quelle année ?
Elle a été restaurée en 1950.
50, ouais. Oui, c'est ça.
Elle a été restaurée, elle a été plusieurs fois repeinte. On avait aussi eu des problèmes sur la dalle. La dalle a été complètement refaite pour éviter les dégradations qui augmentaient avec, vous savez, il y a des champignons qui poussaient. Et ça a été complètement résorbé. Mais autrement, ce qu'il faut faire, c'est un entretien courant.
Alors, je propose qu'avant qu'on rentre à la synagogue, peut-être on va voir les bâtiments qui sont les annexes, juste de l'autre côté. Parce que quand tu vas, ça a l'air très grand bâtiment. Mais si on marche un peu, et voilà, regarde.
Oui, elle est très étroite.
Très, très. C'est incroyable comme type d'architecture. Et c'est bizarre aussi, parce qu'on a des terrains.
C'était d'après ce que j'ai pu voir aux archives, c'était lié à des contraintes de limite de terrain. On ne pouvait pas aller plus loin. Et là, il y avait à un moment, il y avait aussi au premier étage un appartement. Et l'appartement avait été affecté au bedeau. Et le deuxième appartement qui est derrière la synagogue avait été affecté à une famille séfarade dans les années 65, une famille séfarade qui a habité un certain temps dans ces locaux. Donc au premier étage, c'était le Khazan, le ministre officiant. En face, c'était le Shammash, le Bedeau. Et puis au rez-de-chaussée de la synagogue, il y avait encore un appartement, il était plus petit, où a vécu cette famille qui venait d'Algérie.
On a des photos de l'inauguration de la synagogue,
oui,
qui sont magnifiques. Et...
On a retrouvé des photos vraiment magnifiques du jour même de l'inauguration en 1900. Il faut préciser qu'en 1900, c'était sous la domination allemande. Et cette synagogue, c'était la troisième synagogue de la communauté, puisque auparavant, il y avait une première synagogue qui avait été construite en 1779 dans le quartier juif, le Judenhof, et qui était dans la basse ville, un quartier qui n'était pas en vue, qui était assez caché. Auparavant, déjà dès 1736, il y avait un local qui existait déjà pour le culte. Et en 1779, c'était la première vraie synagogue, qui ensuite a été agrandi en 1835. Et cette synagogue dans le quartier juif avait été incendiée en 1850, après des manifestations antisémites. À l'époque, il y en avait beaucoup, 1848 et 1850. Et la communauté tenait à mener un projet pour sortir du Judenhof, puisque les Juifs de Saverne, à la fin du 19e siècle, c'était, disons, l'apogée de la communauté qui comptait plus de 400 personnes. Voulait sortir du Judenhof. Au centre-ville, il y avait beaucoup de magasins juifs. Les familles juives faisaient partie de la bonne société savernoise. Et donc, ils ne voulaient plus rester dans ce quartier. Et c'est sous le régime allemand que les autorités ont autorisé cette construction ici où on est. Et elle a donné lieu à une inauguration qui était magnifique, avec la musique militaire qui était là. Il y avait toutes les autorités allemandes, il y avait toutes les autorités consistoriales aussi. C'était vraiment une grande cérémonie. Et 40 ans après, elle a été détruite.
Bon, récemment, quand même, on a fait l'anniversaire.
Oui, récemment, on a eu la chance d'avoir un très bel... On a pu célébrer vraiment d'une manière formidable les 120 ans de la construction, je dis. Hein.
Oui.
Puisque en 1900-2020, c'était prévu pour 2020, mais à cause du Covid, ça a été reporté. Et on a eu la chance de pouvoir accueillir le grand rabbin de France, Chaim Korsia, qui était vraiment très, très sensible à ce genre de démarche. Et puis, ça nous a permis de lui faire connaître la vie d'une, ce qu'on appelle une petite communauté qui essaye de survivre.
Vous, Alain Kahn, vous ne vivez pas à Saverne ?
Non, je ne vis plus. J'ai vécu longtemps à Saverne. Je suis né à Saverne. Mes parents étaient toujours à Saverne. Mais au moment où le déclin s'amorçait, pour des raisons surtout d'éducation des enfants, pour des commodités, on a déménagé à Strasbourg, mais on a toujours tenu à venir à Saverne. À l'époque, on venait pour tous les offices, à un moment chaque Shabbat, jusque dans les années 80, et ensuite pour chaque fête. Ma mère habitait encore ici, donc... on faisait notre possible pour maintenir cette activité culturelle. Et je me rappelle toujours, on a pu organiser pendant de longues années un CDR communautaire qui était très apprécié. La mairie nous avait mis à disposition une très belle salle au château des Rouens, et certaines années, on réunissait plus de 80 personnes pour le CDR communautaire, qui a laissé beaucoup de bons souvenirs à beaucoup de membres et d'amis de la communauté.
Maintenant, c'est le temps de découvrir la synagogue. Attention à la tête. Regarde, on a quelques photos.
Ça, c'est pour l'inauguration en 1950. Quand la synagogue a été réinaugurée après la guerre. En 1950, on avait aussi eu la visite du grand rabbin de France. À l'époque, c'était Isaïe Schwartz, dont l'épouse était originaire de Saverne. De la famille Frenkel, qui était très connue dans la ville, parce que ça faisait partie de ces commerçants qui vraiment étaient assez nombreux tout le long de l'axe principal de Saverne, la Grand Rue. Et il y avait une dizaine de magasins qui appartenaient aux Juifs dans cet axe principal de la ville.
Oh, que c'est beau.
C'est une belle synagogue.
Oh, c'est magnifique.
Alors, elle est incroyable.
C'est là où j'étais aussi Razan, ici, pendant toute cette période. Et c'était vraiment... On arrivait à réunir suffisamment de monde pour assurer les offices lors des fêtes. Et vraiment, c'était quelque chose à laquelle les membres de la communauté tenaient. Ils faisaient venir leurs proches, leurs amis, et on arrivait à avoir un très bon minyan, notamment pour Rosh Hashanah et Kippour, et pour les Pessah, Shavuot et Sukkot. On arrivait à maintenir, jusque dans les années 80, même encore en 90, on a essayé, et c'était toujours vraiment apprécié.
Alors effectivement, on voit qu'elle a été raccourcie.
Avant la guerre, l'Almémor était au milieu. Donc vous voyez, il y avait la même surface de l'autre côté.
Mais ça lui confère une certaine intimité. Oui, et elle reste très très belle. Hein.
Et puis d'après, elle a une bonne sonorité aussi. Et ça permet aussi d'avoir des concerts qui sont vraiment de bonne qualité.
Et le matériel officiant est d'époque ?
C'était une partie des lustres ont été offerts par des bienfaiteurs, notamment le grand lustre a été offert par une famille qui à l'époque s'appelait Israël. C'était des industriels qui ensuite se sont appelés Isère et qui ont, en 1950, ont beaucoup aidé à permettre à la synagogue d'avoir tous ces éléments-là qui font maintenant toute sa beauté. Et sinon, c'est la communauté qui a récupéré des éléments qui étaient dans l'ancienne synagogue de 1900. On a retrouvé certains éléments, notamment la chaire qui figure même à l'inventaire du patrimoine du Bas-Rhin, et d'autres éléments, la table pour le chazan, ouais. C'est des éléments qu'on a pu récupérer, et les deux lustres aussi, de part et d'autre, ont été récupérés de la synagogue de 1900.
On a aussi des dessins de grands lustres dans l'inventaire chez nous.
Majestueux.
Il est incroyable. On a un très grand dessin, et un autre petit dessin pour le deuxième lustre, qui se trouve juste en dessous de nous. Et dans le musée aussi, on a les parochettes, les rideaux,
oui,
qui datent de...
Les parochettes, oui, ça c'est... Je vous avais dit que la synagogue de 1779 avait pu, grâce à la famille à l'époque qui s'occupait de la communauté, c'était une famille Ségal-Lévy, qui avait offert un magnifique parochette qui avait déjà été utilisé dans le petit oratoire auparavant et qui est daté de 1749. Et ce parochette, ce rideau d'armoire sainte, on a pu le mettre en exposition permanente au musée de Saverne, au musée du château des Rohan, où on a pu aménager un coin vitrine qui retrace l'histoire des synagogues de la ville.
Les Savernois connaissent la synagogue et ce patrimoine-là, et ils viennent le visiter ?
Oui, chaque année, je suis étonné, par exemple, pour la journée du patrimoine. On organise en général une visite de la synagogue, et chaque année, la synagogue est pleine. On fait l'historique de la communauté, et puis chaque année les Savernois et les gens de la région viennent Et vraiment, c'est quelque chose qui apparaît comme nécessaire. Les gens veulent connaître, les gens veulent savoir que représente encore aujourd'hui cette communauté. On avait à l'époque le problème, c'était évidemment un Sefer Torah qui soit correct, hein, qui est utilisable. Et on avait reçu un tout nouveau Sefer Torah, des organisations, vous savez, qui aidaient les communautés, une organisation américaine qui aidait les communautés à refonctionner. Et on avait reçu ce Sefer Torah. Les autres, c'est des sfarim qu'on a récupérés dans les différents villages où existait une communauté, où souvent les habitants même, il faut le relever, avaient caché les rouleaux de la loi, et ensuite on a pu les récupérer. Vous voyez bien, il y en a pas mal. Par exemple, ce manteau-là, il a aussi été offert par cette famille Isère.
En fait, la date réelle des rouleaux de la Torah, souvent on peut trouver les parties bas.
Qui a été offert en 1950.
Et on voit qu'il est récent.
Il est récent. Oui. Les autres sont beaucoup plus anciens. Mais ils ne sont pas utilisables. Parce que...
Regarde par exemple, tu vois les parties bas ici. C'est marqué, en fait, il y a deux parties. Les parties droites, souvent, c'est la famille qui a fait la donation du rouleau de la Torah. Alors, c'est marqué le nom de la famille, le membre, d'où il vient, souvent la date. Et en général, côté gauche, c'est les sofers, l'écrivain. Quel village, quelle date, et pour qui il a fait. Voilà. Et on a de la chance parce qu'on a encore, on peut lire encore. Voilà, c'est génial.
Il faudrait faire un relevé. Ça, c'était les deux mêmes manteaux qui étaient offerts par la même famille. Et puis il y en a d'autres qui ont offert un yad, vous savez, par exemple. On en a exposé au musée. Les plus beaux ont été exposés au musée, ainsi que les différentes garnitures d'un rouleau de la loi.
Moi, j'ai fait l'inventaire de tous les rouleaux, de tous les objets en fait, du barin. Et une grande partie, on a écrit les descriptions en fait, de chaque rouleau. Mais il faudra refaire et revoir tout. C'est vraiment c'est magnifique parce qu'on découvre de l'histoire locale.
Surtout, vous voyez bien que Saverne a une histoire très ancienne. Hein. À Saverne, il y a des rabbins qui étaient rabbins de Saverne depuis 1736, continuellement jusqu'à aujourd'hui d'une manière plus ponctuelle. Mais il y avait toujours eu des rabbins, et puis certains étaient très connus, notamment celui qui a célébré l'inauguration en 1900, c'est le chantre Wolf, qui était très connu, qui était Chazan pendant 40 ans à Saverne. Et puis, il y a eu différents rabbins aussi qui étaient très connus. Juste avant cette synagogue, le rabbin Dreyfus Loeb, qui était une lignée de rabbins. Ensuite, il y a eu un rabbin d'origine polonaise, Stary Polski. Ensuite, il y a eu le rabbin, à la période plus récente, le rabbin Armand Bloch. Ensuite, il y a eu le rabbin Guggenheim. C'est aussi une grande lignée de rabbins. Vous voyez, c'était vraiment des il y avait beaucoup de personnes qui venaient les visiter, ces rabbins, pour des enseignements, notamment le rabbin Armand Bloch et le rabbin Guggenheim arrivaient à faire venir beaucoup de gens auprès d'eux, et ça donnait beaucoup. Ça permettait à la communauté aussi d'avoir une certaine importance dans la vie religieuse.
Mais pas seulement religieuse, parce que Saverne était aussi un centre de commerce. Et...
Ah oui, ça j'ai voilà. Les fidèles, les membres de la communauté, une bonne partie des membres de la communauté étaient des commerçants bien en vue à Saverne. Vraiment, c'était des magasins très importants. Les gens encore m'en parlent aujourd'hui. Il y avait des magasins de vêtements, de tissus, tous ces métiers.
Et qui...
Et il y avait même, jusque dans les années 70, il y avait des marchands de bestiaux à Saverne même. Et oui, tu as raison de le rappeler. Parce qu'il faut savoir qu'en 1791, a été créé le marché aux bestiaux, pour les juifs surtout. Oui. Parce que c'était surtout le métier des juifs à l'époque, hein. Ils n'avaient pas le droit de faire n'importe quoi. Et il y avait beaucoup de marchands de bestiaux, et les marchands de bestiaux venaient à pied 30 km à la ronde, hein, avec leurs bêtes.
Avec les bêtes.
et ce marché aux bestiaux a perduré jusque dans les années 70. Beaucoup de gens en parlent encore aujourd'hui. Oui, c'était un marché
qui...
C'était un centre. Il y avait même stand de charcuterie cachère qui était proposé. Je me rappelle moi-même encore, mon père m'avait emmené là-bas. C'était juste à la fin, dans les années 69. Et c'était vraiment pittoresque. Hein. C'était quelque chose qu'il fallait voir. Les marchands de bestiaux qui venaient de partout, qui se tapaient dans les mains pour conclure une affaire. Enfin, on a aussi même retrouvé un document aux archives de Saverne, un registre, puisque c'était pris en main par la mairie, un registre des différentes transactions qui étaient faites par les différents marchands de bestiaux. Et dans ces registres, on voit des signatures en hébreu, des gens qui ne savaient pas écrire autrement. Vraiment, c'est des documents qui méritent vraiment d'être étudiés.
Parce qu'il y a un autre sujet qui est important, mais je pense qu'on va faire une autre mission spéciale pour ça, c'est le dialecte, le judo-alsacien. Mais pour ça, on a besoin vraiment d'un grand...
Qui s'est raciné ici à Saverne?
Non, c'est pas ses racines. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le judo-alsacien. Et effectivement, le judo-alsacien, c'était la langue du quotidien.
Des
commerces, surtout des marchands de bestiaux.
C'est ça.
C'est un mélange d'hébreu déformé et d'alsacien. Mmh. Vous voyez, et d'ailleurs, j'ai fait un travail qui va bientôt sortir, j'espère, et on aura l'occasion d'en reparler.
Ouais, j'espère, avec plaisir.
Alors, vous voyez, là, il y a aussi un balcon pour les femmes. Et cette
menorah gigantesque.
Vous voyez les lampadaires, les appliques qui sont partout, c'est des appliques avec... C'est le dessin d'un Sefer Torah ouvert.
Oui.
Vous voyez, c'était le pli qui avait été pris pour la décoration de la synagogue. Okay. Mais ces deux lustres-là sont de 1900. Il date d'avant 1950. Hein.
Et quand toi, c'était utilisé ?
Oui, pour les mariages.
Pour les mariages ?
Oui. Mais il devait dater de la période entre 1900 et 1940. Je ne sais pas quand il a été apporté, je n'ai pas la date exacte. Mais moi, je l'ai toujours vu ici. la synagogue, la communauté, juste, je vous ai dit, jusque dans les années... Dans les années 80, fonctionnait chaque Shabbat. 80 même, dans les années 90. Et puis, avec un chazan, un rabbin, il y avait un rabbin qui habitait à Saverne, c'était le dernier rabbin qui habitait Saverne, c'était le rabbin Guggenheim, qui avait une maison pas loin de la synagogue. C'était le dernier qui habitait vraiment à Saverne. Ensuite, on n'a plus gardé cette maison parce qu'il n'y avait plus de nécessité d'une permanence, puisqu'il n'y avait pas d'office quotidien, il n'y avait que des offices les jours de fête. Et donc, le successeur du rabbin Guggenheim, c'était le rabbin Gainsburger. Il venait à Saverne pour les fêtes, notamment pour Yom Kippour. Il passait toujours Yom Kippour avec la communauté. Et ensuite, comme il y avait de plus en plus de difficultés, les rabbins qui lui ont succédé venaient plutôt pour des activités ponctuelles, les cérémonies, et notamment la cérémonie annuelle pour la déportation, le souvenir des déportés, et puis pour différentes activités. On avait même à un certain moment, dans les années, c'est pas tellement vieux, dans les années 2000, il y avait encore un petit Talmud Torah, auquel participait d'ailleurs Jackie Wachnin, C'était, il y avait des jeunes qui venaient un peu, pas seulement de Saverne, mais aussi de villages alentours, jusqu'à Vasselonne. Et ça a duré quelques années, mais ensuite, les gens ne restaient pas dans ces endroits-là, et puis la plupart étaient plutôt à Strasbourg.
Juste avant le Covid, on a fait le Hanouka ici, oui. Qui était magnifique, avec beaucoup d'enfants.
Oui, dès qu'on organise quelque chose,
les gens... Il y a immédiatement de gens qui viennent. Avec le rabbin Saminiter et...
Maintenant, c'est le rabbin Saminiter avec lequel on arrive vraiment à organiser des activités ponctuelles et on arrive à mobiliser les gens pour y participer et on va essayer de continuer, quoi.
Merci infiniment Alain Kahn, c'était un plaisir, on a appris plein de choses. On est aujourd'hui ici dans cette synagogue de Saverne avec un puits de science. Quelle chance on a eu d'être accompagné par un guide comme ça aujourd'hui. Merci à vous et merci Yoav Rossano de nous avoir présenté Alain Kahn pour cette visite.
Toujours à votre disposition.
Merci à vous.